Alors, on va enchaîner avec la deuxième table ronde de cette matinée. Même si je sens que tout le monde a très envie de feuilleter les documents qui ont été mis à disposition. Alors, je suis Raphaëlle Gilbert, chargée de mission au ministère de la Culture, au bureau de la lecture publique, en charge de l'évolution des métiers. Merci Nicolas. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Sophie Gonzalez, vice-présidente de l'Association des directeurs et directrices de centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, et Marion Druard, qui est membre responsable de la commission formation de l'Association des bibliothécaires départementaux. Voilà. Donc, nous allons vous présenter le référentiel de compétences. Nous garderons un temps de questions à la fin de la table ronde, si jamais vous aviez une ou deux questions qui est vraiment brûlante concernant les chiffres clés. Il sera envisageable aussi de les poser à ce moment-là, hein, n'hésitez pas. Alors, on a le plaisir de vous présenter ce référentiel aujourd'hui. Il est aussi téléchargeable en ligne, hein. Vous pourrez le faire circuler auprès des collègues, bien entendu. C'était l'un des 10 engagements que nous avions pris dans le cadre de la concertation qui a été conduite depuis 2021. Et l'objectif, c'était vraiment de proposer un cadre national commun et une vision d'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour travailler en bibliothèque territoriale. Alors, je vais vous mettre là quelques illustrations. Alors, c'est un référentiel de compétences. Jusqu'ici, nous disposions de référentiels métiers. Alors, bien sûr, nous avons pris appui sur les référentiels métiers qui existent, hein. Nous sommes allés extraire les différentes listes de compétences en essayant d'en faire une synthèse que nous avons ensuite enrichi, fait évoluer. Mais l'intérêt pour nous de l'approche par compétences, c'était d'avoir quelque chose qui soit plus synthétique. L'objectif, c'était vraiment de donner cette vision d'ensemble et puis aussi plus facilement actualisable, du fait que ce soit un document justement qui soit plus court et plus rapide à élaborer. Ce que nous souhaitions aussi, c'est que ce référentiel puisse rester sensible à ce qui se transforme, à ce qui émerge. On parle beaucoup ici de la transformation des métiers. Ce que nous ne voulions éviter, c'était de produire un document qui ensuite resterait figé pour une durée assez longue. Donc c'est pour ça que nous avons réalisé un document relativement court, mais que nous souhaitons pouvoir actualiser et qui essaie de lister certaines compétences qui sont des compétences émergentes. Alors, il a été conçu pour pouvoir être utilisé par une grande diversité d'acteurs, bien sûr les bibliothèques, pour développer des plans de formation, pour pouvoir travailler à des fiches de poste, à des annonces de recrutement, pour que les équipes puissent se saisir de la question d'évolution des métiers. Il a aussi été conçu pour les organismes de formation qui élaborent des maquettes pédagogiques, pour les collectivités territoriales, les élus, les directeurs généraux, les directeurs des affaires culturelles, les collègues des services RH, qui ont besoin de pouvoir identifier les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir mettre en œuvre les politiques de lecture publique. Et puis plus largement par tous les acteurs, hein, qui souhaitent travailler à cette question de l'évolution des métiers des bibliothèques. Alors, comment est-ce que ce référentiel a été élaboré? Depuis 2021, nous avons lancé une très large concertation qui réunit l'ensemble des associations professionnelles qui représentent les bibliothèques, les organismes de formation, des associations de cadres et d'élus territoriaux, d'autres associations, je pense à la FIL par exemple, et puis des acteurs de l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'Inspection générale notamment. Ce référentiel, il a été réalisé sur un temps assez court. Il a réuni à peu près 45 personnes pour sa réalisation autour de 3 réunions en l'espace de 8 mois. C'est un choix assumé, c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on a préféré produire très rapidement un référentiel dont on souhaitait le mettre sur le terrain, à l'épreuve des usages, pour pouvoir disposer de retours qui nous permettront d'élaborer une version 2 qui sera réalisée justement en fonction des retours qui nous seront faits. Voilà. Alors, je vais vous le présenter assez rapidement avant qu'on commence à échanger, pour qu'on sache tous de quoi on parle, même si vous l'avez entre les mains. D'abord, un choix majeur, ça a été de privilégier la lisibilité et la synthèse à l'exhaustivité et au détail. Donc, vous ne trouverez pas dans ce référentiel d'approche par spécialisation. la musique, la jeunesse, les arts numériques, toutes les spécialisations qui peuvent exister en bibliothèque n'y sont pas déclinées. Il faut aller piocher à gauche, à droite, les compétences nécessaires si l'on souhaite recréer une approche par spécialité. Vous n'y trouverez pas non plus d'approche par degré de maîtrise, débutant, intermédiaire, expert. Ce que nous avons souhaité, en fait, c'était produire un outil très généraliste, très souple et très adaptable, justement, à tous les contextes territoriaux, à tous les différents acteurs qui pourront être amenés à s'en saisir. C'est pourquoi nous avons privilégié cette forme. Alors, la notion de compétence, pour le préciser, la définition que nous retenons, c'est la combinaison de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, mobilisé pour agir de manière adaptée face à une situation professionnelle donnée. Donc il ne s'agit pas de simples techniques réplicables, mais bien de la mise en cohérence d'un certain nombre de savoirs et savoir-faire dans un contexte spécifique. Alors vous avez ici un aperçu des grands domaines de compétences. Vous trouverez dans le référentiel d'abord un préambule qui explique comment ce document a été élaboré, ensuite un mode d'emploi, et puis les compétences qui sont listées alors en 9 grands domaines, eux-mêmes subdivisés en sous-domaines de compétences. À chaque fois, vous trouverez, là par exemple je vais vous montrer une fiche type, des éléments de définition, d'enjeux, quelques facteurs d'évolution. Nous avons aussi toujours pris le soin, alors nous n'avons pas réalisé d'approche par niveau, cependant nous avons pris le soin systématiquement de chercher à définir ce que pourrait être une compétence de base. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, nous le précisons dans l'introduction du référentiel sur la notion de compétence de base. L'idée n'est pas que toutes les compétences de base cumulées suffisent à donner un niveau suffisant pour travailler en bibliothèque. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça a été conçu. C'est plutôt un socle commun partagé entre tous les professionnels des bibliothèques, étant attendu que la plupart des collègues vont avoir des spécialisés ou des compétences plus avancées dans un certain nombre de domaines. Donc c'est plutôt le plus petit dénominateur commun, mais qui nous semblait constituer la culture de base partagée par l'ensemble des personnes qui travaillent dans les bibliothèques. Dans la liste des compétences dont je vais reprojeter les grands domaines, vous trouverez des compétences parfois qui sont avec un code couleur indiqué comme émergentes ou comme à développer. Alors à développer, c'est dans le cadre de la concertation, on a identifié un certain nombre de compétences qui nous ont semblé à la fois nécessiter d'être davantage approfondies au sein des équipes, mais aussi pouvoir être développées dans les offres de formation. Il peut s'agir aussi bien de compétences nouvelles que de compétences très traditionnelles. On y retrouve par exemple, dans certains cas, certaines compétences relatives à la politique documentaire. Voilà, donc les compétences à développer signifient plutôt qu'un point d'attention a été porté sur ces compétences. Enfin, une dernière précision, la première catégorie, le premier grand domaine de compétences, concerne de grands enjeux sociétaux. Il ne s'agit pas de tous les enjeux relatifs à la lecture publique, mais plutôt d'un certain nombre d'enjeux de société, la citoyenneté et la déontologie, la transition écologique et la responsabilité sociale, l'accessibilité, le numérique, qui ont été sélectionnés au regard de leur actualité et de leurs effets sur l'activité des bibliothèques. Alors, pour finir et avant de laisser la parole à mes collègues, ce que je voudrais dire, c'est que ce référentiel, il a vraiment vocation à nourrir le dialogue. On pense qu'il peut être utilisé entre des responsables de bibliothèques et leurs services RH, leurs élus, leur direction générale, leur direction des affaires culturelles, pour pouvoir échanger sur les compétences dont on a besoin pour aujourd'hui mettre en œuvre les politiques de lecture publique. On peut imaginer aussi qu'il serve de support à des échanges entre des organismes de formation et des professionnels de terrain, ou que des équipes s'en saisissent pour réfléchir à l'évolution de leur métier. Dans tous les cas, vous le verrez, nous avons fait des choix, nous avons débattu, nous avons parfois fait des compromis. Certains choix seront peut-être discutables, en tout cas nous espérons qu'ils seront discutés, puisque si ce référentiel peut servir à nourrir, à servir, à lancer un dialogue, des échanges autour des métiers et de leurs évolutions, il aura déjà rempli l'un de ses premiers objectifs. Alors, voilà pour la présentation du référentiel. Nous avons aujourd'hui autour de la table des représentantes à la fois d'organismes de formation, de bibliothèques, Marion ayant la double casquette, à travers les bibliothèques départementales, des bibliothèques qui sont aussi en charge de formation.
Raphaël m'a demandé de préciser ce qu'était une bibliothèque départementale, mais avant, je vais m'excuser par avance, je suis un peu malade, donc peut-être qu'une quinte de toux interrompra mes propos. Mais je vous rassure, ce n'est pas le Covid, et d'après mon médecin, je ne suis plus contagieuse, donc tout va bien. Donc les bibliothèques départementales, notre mission, donc, qui a été rappelée dans la loi citée tout à l'heure par Nicolas Georges, c'est de soutenir le développement de la lecture publique à l'échelle de chaque département. Pour ça, on actionne plusieurs leviers. Le conseil, d'abord, le conseil aux élus locaux, aux administrations territoriales et aux équipes des bibliothèques, que ce soit des salariés ou des bénévoles ou les deux. La formation, qui est un volet important et peut-être pas toujours très visible des bibliothèques départementales. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Loire-Atlantique en 2019, c'était un peu plus de 700 stagiaires pour une année. Voilà, ce qui vous donne un peu un ordre de grandeur, et sur une proportion qu'on retrouve dans beaucoup de bibliothèques départementales, un tiers de bénévoles, deux tiers de salariés. Évidemment, ces proportions peuvent évoluer selon qu'on est sur un territoire très rural, avec des toutes petites bibliothèques majoritairement animées par des bénévoles, ou des bibliothèques un petit peu plus professionnalisées. Un autre levier, c'est le développement de l'action culturelle. Certaines bibliothèques départementales sont des opérateurs de manifestations littéraires directement ou de médiation. Et enfin, on prête des collections numériques et physiques aux bibliothèques. La médiation numérique et tout le travail sur l'inclusion sociale via le numérique, ou en tout cas l'accès au numérique, est une dimension aujourd'hui assez forte de l'action des bibliothèques départementales.
Alors bonjour à tous. Moi, je voulais remercier Raphaël pour ce gros travail de concertation dans un temps record, puis pour la qualité, même si c'est une version bêta, pour la qualité des documents qui nous ont été transmis et synthétisés. Donc, et merci évidemment de nous avoir permis de participer à cette réflexion qui va se poursuivre bien sûr cet après-midi. Alors, à moi de dire une petite limite. C'est qu'on a un retour, donc c'est les aléas du direct, et donc on s'entend en écho. Donc voilà, de temps en temps, vous me verrez, voilà, comme les chanteurs corses, mettre ma main comme ça. Donc une précision sur les CRFCB, donc je salue mes collègues qui sont dans la salle. Voilà. Donc les centres régionaux de formation aux bibliothèques, parfois les collègues territoriaux les connaissent moins, même si on a à peu près 20% des territoriaux qui ont un compte dans notre base de formation CIGEFOR. Donc ce sont des opérateurs de l'État, hein, puisqu'on a été implanté par le ministère de l'enseignement supérieur dans les universités dans les années 80, à peu près au moment de la création des filières bibliothèques après la disparition du CFB. Et donc on suit l'ensemble des parcours de formation, du démarrage, du souhait de rentrer dans la profession, hein. On est bien sur les carrières des bibliothèques, quelles que soient les bibliothèques, état, territoriales, associatives. Donc le souhait de rentrer dans la profession avec des conseils d'orientation, une information sur les métiers, etc. Parfois un centre documentaire qui fait que je suis... J'ai aussi une bibliothèque, par exemple, spécialisée évidemment dans les métiers. Et puis ensuite, ben évidemment, un conseil sur le fait d'évoluer dans le métier, de passer des concours, de se former tout au long de la vie. Voilà, donc on suit ces parcours, que ce soit à l'État ou en territorial. Et souvent, les collègues territoriaux ne savent pas forcément qu'on a cette casquette, même si évidemment beaucoup d'étudiants qui veulent rentrer dans le métier s'adressent à nous. Donc évidemment, c'est les formations qu'on met en place, en tout cas sur le volet territorial, bien entendu, c'est en concertation avec l'ensemble des acteurs, hein, de nos territoires respectifs. Nous sommes 12 CRFCB. Donc moi, je suis en charge du CFCB Bretagne Pays de la Loire. Et on est en concertation avec l'ensemble des acteurs, la DRAC bien sûr, Le livre lecture en Bretagne mobilise les structures régionales pour le livre, le CNFPT, les bibliothèques départementales, bien entendu, les associations professionnelles, dont l'ABF qui est également dans la salle, entre autres, mais aussi l'ENSI, par exemple, sur certaines actions, et pour se concerter. Et bien sûr, entre nous, on essaye d'harmoniser également en réseau notre fonctionnement.
Merci beaucoup Marion et Sophie. Alors un premier point que j'aimerais que l'on puisse aborder pour cette table ronde, ce référentiel a vraiment été conçu sous le signe de la diversité, diversité des territoires, diversité des bibliothèques, diversité des acteurs qui vont être amenés à s'en saisir. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce qu'il donne à voir des métiers de leur évolution et sur les utilisations que vous pourriez envisager d'en faire en tant que bibliothèque et organisme de formation.
Alors j'enchaîne. Pour moi, ce que montre avant tout ce référentiel, c'est que les bibliothécaires ont une multitude de compétences et que certainement cela ne se sait pas assez. Donc on espère qu'un document comme celui-là va permettre la diffusion de cette information, au moins sur cette grande polyvalence des collègues, puisque c'est une caractéristique importante de notre profession. La deuxième chose, c'est évidemment l'importance de la notion même de compétence, hein, puisque là, Raphaël l'a très bien rappelé, on a fait ce choix d'un référentiel de compétences. C'est une notion qui est très très utilisée dans nos centres de formation, qui est également utilisée par nos collègues dans les universités qui sont en charge des maquettes, hein, et des maquettes nationales, des diplômes métiers notamment. Donc si vous allez sur France Compétences, qui porte là aussi bien son nom, vous verrez les maquettes des différents DUST, alors on ne dit plus DUT, on dit BUT, des licences professionnelles. Par exemple, la licence professionnelle bibliothèque et documentation, c'est une maquette nationale. Et on demande aux enseignants de travailler par compétences et d'harmoniser ces maquettes au niveau national. Donc là, c'est plutôt pour la formation initiale, quand on veut justement avoir ces bases métiers. Mais c'est important de dire que, voilà, évidemment, on travaille avec ses collègues enseignants. On donne notre regard aussi de professionnels, de centres de formation, pour qu'il y ait une vraie continuité entre la formation initiale et ensuite ce qu'on va peut-être spécialiser dans la formation continue. Donc ce travail sur la compétence, sur lequel nous aussi nous avons beaucoup réfléchi, hein, puisqu'on propose des validations, on propose des parcours, etc. Pour nous, c'est une notion clé. Et je trouve que ça met en lumière, ça met en exergue quelque part ce travail sur la compétence, sur un métier, et ça correspond vraiment à ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire travailler par compétence sur l'ensemble des caractéristiques de notre métier.
Je trouve que le premier intérêt de ce référentiel, c'est le processus, en fait. Le fait, on a eu un certain nombre d'ateliers où étaient représentés des acteurs de la formation initiale, de la formation continue, les associations professionnelles ABF, ABD, mais aussi nos collègues des BU et puis collègues du ministère de la Culture. Et je trouve que déjà, de pouvoir discuter ensemble de nos visions, le CNFPT, bien sûr, pardon, je vous juste en face de moi, et de pouvoir discuter ensemble de nos visions de la formation, des besoins aujourd'hui de la formation des bibliothécaires territoriaux, je trouve que déjà c'était la première qualité de ce référentiel. Et puis, bon, Sophie l'a dit, il montre quand même ce référentiel, le foisonnement des compétences de tous et de tout ce qu'on peut faire en bibliothèque par conséquence. Également, le niveau de technicité aussi, même si on n'a pas volontairement mis des niveaux dans l'ensemble des compétences qui sont présentées, ça montre quand même qu'il y a un vrai besoin de technicité. Et ça, c'est important dans le dialogue qu'on va avoir entre nous et dans le dialogue qu'on peut avoir avec les administrations territoriales et avec les élus. Il a été question tout à l'heure du bénévolat. Attention quand même à une vision romantique des bénévoles. J'ai un collègue directeur de bibliothèque départementale qui parle de la fiction bénévole, puisque quand on calcule, non pas qu'ils n'existent pas, ils existent et nous sommes ravis de travailler avec eux en bibliothèque départementale, mais quand on fait un compte en équivalent temps plein du temps bénévole, c'est justement, ça masque un peu tous ces besoins de compétences pour proposer les services d'une bibliothèque contemporaine et accueillir le public dans toutes les dimensions de ce public, de ces publics et de leurs attentes. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce référentiel pour discuter avec les élus locaux avec lesquels nous travaillons du besoin d'adosser le bénévolat, hein, qui permet effectivement un vrai ancrage des bibliothèques dans leur territoire, auprès de leur population, mais de l'adosser à un travail qualifié, salarié, qui nous semble essentiel et qu'on défend en bibliothèque départementale, dans nos discussions avec les élus. Donc le référentiel, il est aussi un outil pour faire valoir le besoin de compétences. Évidemment, on forme les bénévoles, c'est une des missions des bibliothèques départementales, et nous le faisons. Avec une petite alerte quand même, la post-Covid, c'est qu'on voit qu'on a du mal à remobiliser les bénévoles quand même, au moins pour la formation et parfois dans les bibliothèques. Voilà, c'était la petite séquence concernant le bénévolat. Moi, je vois très bien l'usage concret qu'on peut faire de ce référentiel. Mais par exemple, à l'occasion d'un projet de construction, on accompagne beaucoup les projets de construction, de renouvellement d'une bibliothèque, et bien d'avoir d'abord un échange avec le pilote du projet pour voir, en fonction du projet culturel, scientifique de la bibliothèque et des priorités qu'elle se donne et que les élus leur donnent, quelles seront les compétences à mobiliser pour mettre à jour le projet, et donc trier dans les compétences. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir insister dans les recrutements, dans les fiches de poste et dans la formation continue lorsque les agents et les bénévoles sont déjà là. Insister sur telle formation, ça non, on va le mettre de côté parce que c'est pas une priorité aujourd'hui. Je trouve que le référentiel, aussi généraliste soit-il, et justement parce qu'il est général, il est intéressant aussi pour repositionner les bibliothécaires dans l'espace territorial, dans l'administration territoriale, dans la relation aux élus, et en lien avec l'ensemble de la population et pas simplement le public dans les murs de la bibliothèque. Et je trouve que c'est intéressant, tous les aspects, toutes les dimensions stratégiques, etc., repositionnent bien la bibliothèque et ses agents dans l'environnement territorial. Pour moi, c'est vraiment très important. Et enfin, dernier mot, mais Sophie en a parlé, le référentiel, il est aussi un outil de dialogue entre nous dans les instances de coordination autour de la formation des bibliothécaires territoriaux. Moi, je vais l'utiliser pour faire le plan de formation à la fois de mon équipe, mais surtout de l'offre de formation de la bibliothèque départementale.
Merci Marion. Alors comme tu le dis, comme on l'a dit en préambule, nous avons fait le choix d'un référentiel très généraliste, mais aussi très adaptable. J'aimerais qu'on revienne sur ce point. C'est vrai que nous avons conçu ce référentiel pour qu'il soit adaptable à toutes les situations, de la bibliothèque avec 3 agents à la bibliothèque avec 300, de la bibliothèque municipale ou intercommunale à la bibliothèque départementale, qu'il soit utilisable par les organismes de formation. Ce qui implique finalement, c'est un outil qui va nécessiter une traduction, c'est-à-dire quand on veut s'en emparer dans une équipe en fonction du personnel en place, du nombre du personnel en place, du territoire, du statut aussi des personnels en place, il s'agira de pouvoir définir au sein de chaque compétence de quelles compétences on a besoin, notamment prioritairement, et puis au sein de chaque compétence du degré de maîtrise qui va être attendu de la personne. Donc cette approche pour nous, elle présentait un atout important, c'était son adaptabilité. On ne voulait pas notamment avoir une approche par fiche de poste, parce que les organisations territoriales sont tellement diverses que ce sont des approches dans lesquelles très très vite on peut avoir du mal à se retrouver avec des postes qui ne correspondent jamais à aucune fiche type qui pourrait exister par ailleurs. Donc on voulait pouvoir répondre à cette grande diversité aussi des organisations du travail et des répartitions des activités au sein des bibliothèques. Cependant, on a conscience aussi des risques, par exemple, qu'on puisse penser, utiliser, alors c'est bien marqué dans le préambule que ça n'a pas été rédigé dans cette intention, mais qu'on puisse penser qu'une personne seule puisse tout faire. Par exemple, ce n'est pas le cas. Le référentiel a vraiment été conçu pour penser, pour décrire les compétences à l'échelle d'une équipe et non pas à l'échelle d'une personne seule. On a identifié aussi un risque qui est celui, on en avait échangé lors des réunions de concertation, qui est celui de la surreprésentation des compétences de cadre. Puisqu'effectivement, comme nous ne distinguons pas de degré débutant, maîtrise, expert, etc., chaque compétence inclut systématiquement jusqu'au niveau stratégique. Ce qui peut donner le sentiment d'un déséquilibre. Donc chaque compétence est vraiment à traduire en fonction du contexte territorial. Pardon pour cette introduction un petit peu longue, mais j'aimerais avoir votre regard, Sophie et Marion, dans le cadre de ce référentiel généraliste, sur les atouts qu'il peut présenter et aussi sur les points de vigilance que vous pouvez identifier.
On change le rythme. Effectivement, et on le voit beaucoup, on voit passer des offres d'emploi de bibliothécaires, de catégorie C parfois, avec où on cherche le mouton à cinq pattes, où il faut des compétences invraisemblables, tout réunir en un. Donc ça, effectivement, il faut être vigilant là-dessus. On parle des compétences. D'abord, on est parti d'une bibliothèque idéale, parce que tant qu'à faire, autant se projeter sur la construction, donc des compétences nécessaires au bon fonctionnement d'une belle bibliothèque. Et puis, il s'agit évidemment de réunir des compétences qui ne se réunissent pas forcément dans une seule personne. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois de trier aussi. On ne peut pas tout faire selon les moyens et selon les objectifs que s'est donné la collectivité à travers sa bibliothèque. Voilà. Donc sur le côté vigilance, il y a celle-là. Et puis, ce n'est pas non plus des compétences à un moment donné, c'est-à-dire que les compétences, elles se construisent dans le temps, ça peut évoluer, parfois on a moins besoin d'une compétence où elle est acquise pour l'ensemble de l'équipe et on va travailler dans le domaine de la formation pour développer d'autres aspects bien sûr. Donc ça, c'était un peu sur les réserves. Moi, je trouve vraiment intéressant ce côté généraliste pour les aspects qu'on se donnait tout à l'heure. J'espère, on a certainement oublié des choses, parce qu'un groupe de travail reste un groupe de travail. Donc j'espère qu'il y aura des retours aujourd'hui, mais plus tard aussi dans la profession, pour qu'on améliore ensemble le document. Ça me semble important. Je trouve aussi sur les questions stratégiques, opérationnelles, etc., je pense qu'un des grands enjeux de la bibliothèque, et c'est déjà largement en train d'évoluer, c'est quand même la question des organisations apprenantes, on en a parlé tout à l'heure, et des modes plus horizontaux de management. Alors, il ne faut pas oublier, et moi je rappelle souvent au cadre, n'oubliez jamais combien sont payés les gens dans votre équipe, par rapport aux attentes, parfois on râle en disant « il ne veut pas faire ça, machin », oui, regardons leur salaire et regardons le nôtre aussi. Et les conditions de travail, néanmoins, c'est extrêmement important, y compris que des agents de catégorie C puissent se situer dans un organigramme, se situer dans un arbre de compétences et contribuer à ses compétences et apporter sa pierre. Et je parle d'agents de catégorie C, je pourrais aussi parler de bénévoles, bien entendu, que chacun puisse se situer pour voir ce qu'il apporte à la bibliothèque et comment il contribue à un projet global. Et encore récemment, une collègue qui travaille dans une grande bibliothèque métropolitaine me dit qu'il n'y avait pas, par exemple, de réunion de concertation des cadres intermédiaires, ce qui me semble complètement aberrant qu'il n'y ait pas des instances de concertation sur l'ensemble des agents pour discuter à la fois du projet de la bibliothèque, échanger, poser les questions, mais aussi discuter des compétences et des formations nécessaires. Il me semble vraiment urgentissime qu'à tout niveau de bibliothèque, on travaille sur des organisations qui soient plus horizontales et plus dans l'échange et dans le partage des expériences et des compétences.
Alors, moi, je pense qu'un outil comme celui-là, justement, c'est un outil de dialogue. C'est vrai qu'il y a la présence de compétences assez variées en manière de management. C'est intéressant de pouvoir positionner les choses, d'avoir un outil et ensuite un outil qui permette la discussion. Donc la discussion, bien sûr, avec ceux qui l'utilisent. Hein, là, c'est l'expérience utilisateur, les stages UX qu'on anime régulièrement, mais aussi voilà, au quotidien, que ça puisse être un outil avec les équipes, etc. Mais là, on parle du collectif. À titre individuel, quand nous, on reçoit des personnes aussi qui viennent justement faire le point sur leur carrière, les évolutions possibles, etc. C'est vrai que d'avoir un document qui présente les choses, en tout cas qui les pose et qui lance la discussion, peut permettre effectivement de dire, ben voilà, en termes de compétences, ben ça, je sais faire, ça, beaucoup moins. Est-ce que je dois me former pour ensuite envisager une évolution, un concours, passer catégorie B, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comme compétences pour pouvoir voilà, répondre aux attendus, pour pouvoir changer de poste, pour pouvoir aller vers voilà, un poste totalement différent. On peut avoir des compétences de base en bibliothéconomie. C'est vrai qu'on voilà, on discute régulièrement avec le CNFPT sur ces questions pour proposer, apporter notre expertise et proposer des formations aux collègues territoriaux spécifiques sur la partie technique. Voilà, mais si on est sur un poste un petit peu différent, je suis sur la gestion du catalogue, je vais aller sur la communication ou je vais aller sur le patrimoine et c'est quelque chose que j'ai jamais fait, est-ce que j'ai moyen d'avoir des passerelles et à l'intérieur du métier de pouvoir me former pour envisager une évolution professionnelle? Et ça, c'est intéressant parce que effectivement l'évolution professionnelle, il y a une loi, hein, la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et voilà, il y a les deux aspects. Et c'est vrai que la première table ronde en a parlé aussi. Voilà, on peut faire des intras en équipe voilà, pour échanger sur un sujet, se parler, faire monter en compétence l'équipe. Et ça, c'est des choses qu'on peut accompagner comme organisme de formation, que ce soit les CRFCB ou le CNFPT. Et puis, il peut y avoir un choix d'un parcours individuel au sein du métier pour occuper un certain nombre de postes. Hein. Je rappelle qu'il y a aussi un nombre de contractuels importants qui se forment au métier, qui n'ont pas forcément les concours tout de suite, qui passent d'un emploi à l'autre avec des intitulés qui peuvent être différents, d'une fonction publique à l'autre, hein, les détachements sont possibles également, etc. Donc, on se trouve face à des personnes qui, dans leur parcours, ont des souhaits de mettre en avant les compétences qu'elles ont acquises tout au long de leur parcours de formation. Et d'ailleurs, vous retrouvez de plus en plus dans les rubriques des CV, une rubrique justement compétences. Donc, je pense que dans cette discussion-là, avec plus des souhaits de parcours individuels, d'évolution dans le métier. Voilà, on a un outil et on peut le mettre en dialogue.
Merci beaucoup. Alors, nous avons indiqué que ce référentiel serait revu, ajusté en fonction justement des retours de terrain, des demandes d'amélioration qui seront formulées. Nous avons déjà mis en place un formulaire en ligne auquel chacun peut contribuer et nous nous engageons à réunir l'ensemble des contributions et à les soumettre au groupe de travail qui travaillera à la V2 à la version 2 de ce référentiel. Donc peut-être une dernière question, Marion et Sophie, avant que l'on ne prenne quelques questions. S'il y a des évolutions, des compléments apportés à ce référentiel, des déclinaisons, que ceci soit produit dans le cadre de la concertation que nous animons ou dans d'autres cadres ou par d'autres structures, est-ce que vous avez d'ores et déjà des idées, des envies? Voilà, je laisse la parole.
Alors moi, je fais un spécial dédicace à une collègue qui voudrait un poster de l'arbre là, peut-être un petit peu plus...
Je le précise, vous ne l'avez pas. Je suis contente voilà. Quand même.
Alors, un petit peu arrangé, plus designé, on va dire, et détaillé, qui soit plus facilement exploitable dans les discussions avec des élus qui ne vont pas lire l'intégralité du référentiel ou un directeur général de service, voire une DRH. Donc voilà, ça c'est une demande très concrète, très, très pratique. Je pense que dans les évolutions possibles de ce référentiel, alors il y a toutes les choses qu'on a oubliées et on compte sur vous pour nous les rappeler, sans doute. Je sais que certains collègues envisagent déjà des déclinaisons, d'affiner des déclinaisons, peut-être sur des métiers un peu plus spécialisés. Je pense aux collègues du patrimoine qui s'occupent de collections patrimoniales. Je trouve que ça pourrait être intéressant, mais attention, justement, à ne pas revenir sur une maladie parfois de notre profession, de revenir à l'extrême technicité et de garder aussi cette dimension très générale du positionnement de la bibliothèque dans la collectivité. Voilà, et pas simplement sur une compétence métier propre. Bon, moi, je pense que dans les idéaux de compétences à partager, il y a l'accueil. Hein. Pour moi, c'est vraiment la notion d'accueil dans toute sa dimension qui inclut pour moi aussi bien les services numériques que les collections, que l'aménagement de la bibliothèque, sa construction, etc. C'est vraiment central. Et une dernière chose... qui là dépasse largement ce référentiel de compétences pour les bibliothèques, c'est que je pense que ça serait intéressant qu'on engage une réflexion sur d'autres métiers dans les bibliothèques. Je pense par exemple, une bibliothèque dans un quartier populaire qui est souvent caractérisé par une très forte représentation de femmes seules élevant des enfants. Évidemment, au regard des autres services publics proposés, ben, ça ne serait pas absurde d'intégrer dans l'équipe de la bibliothèque des professionnels de l'enfance, puéricultrices ou autres types de professionnels, pour permettre aux mères célibataires de participer à des propositions de la bibliothèque, des ateliers, rédiger un CV, ateliers d'écriture, etc. Voire dans des lieux très ruraux, il y a déjà des hybridations qui se font. Hein. On a parfois aussi un kiosque presse de vente de presse, un rôle de maison de la presse dans la bibliothèque. Enfin voilà, il y a plein d'hybridations qui passent pas forcément par les bibliothécaires qui ne pourront pas tout faire. Hein. Une bibliothécaire, elle n'est pas assistante sociale, puéricultrice, éduxpé, membre de la PJJ, vigile, etc. Hein. Mais en tout cas, apprendre à travailler dans les mêmes équipements et pas forcément sous l'autorité d'un conservateur ou d'un directeur de bibliothèque et de partager des métiers qui ont des compétences particulières avec un socle d'accueil du public partagé, mais des compétences qui permettent d'encore mieux rendre service à la population au sein de la bibliothèque.
Alors je rebondis sur ce que disait Marion, sur les formations diplômantes voilà, qu'on appelle de base, que ce soit... le diplôme ABF ou les DU dans les CRFCB. On voit beaucoup de personnes en reconversion venir nous voir, voilà, de tous âges, hein, disant bah, j'ai trouvé ma voie, maintenant je veux aller vers les bibliothèques. Et elles arrivent avec déjà une première expérience métier et donc des compétences acquises. Et on constate quand même que souvent, on peut avoir des compétences, soit sur la filière du livre, soit sur la petite enfance, justement, sur l'animation, ou alors bien d'autres métiers. Et elles arrivent aussi riches de ces compétences-là, et elles viennent développer le pool de compétences qui peuvent apparaître dans une équipe. Alors, à un moment ou à un autre, souvent, elles ont besoin d'acquérir ces bases métiers pour être en dialogue avec le reste de l'équipe. Mais évidemment, elles apportent beaucoup. Et ensuite, c'est un petit peu lissé dans le référentiel de l'équipe. Donc ça, c'était un point sur les reconversions qui sont aujourd'hui nombreuses. Donc... le référentiel, il est fait pour être évolutif. Nous, on a beaucoup effectivement œuvré pour dire ben, il y a des compétences de base. La preuve, on peut s'y former et avoir un diplôme métier, voilà, une formation diplômante. Ensuite, on va venir par la formation tout au long de la vie greffer d'autres compétences, par son expérience greffer d'autres compétences. Donc, on est beaucoup dans la proposition de parcours. Par exemple, actuellement, on est sur les parcours bibliothécaires formateurs, voilà, c'est vraiment le rôle de médiateur, le rôle de transmission que peut avoir le bibliothécaire. Et bien là, on voit des collègues aussi territoriaux qui s'emparent de cette validation et qui la font voilà, valoir ensuite au sein des équipes, etc., par le rôle qu'ils prennent. Donc, cela dit, pour envisager d'aller approfondir une connaissance, ben, il faut bien démarrer par quelque chose. On peut avoir envie d'acquérir une connaissance, ben, il faut commencer par un niveau 1 et il faut aller sur un niveau 2. Et nous, voilà, pareil, je parlais des compétences techniques, ben, on commence par les bases et puis ensuite, on va approfondir. Sinon, voilà, avec des groupes trop hétérogènes, on n'arrive pas à transmettre, ou avec des formations trop pas assez longues, en fait, on n'arrive pas à aller dans la complexité de certaines notions. Hein, je reparlerai pas de la transition bibliographique, mais j'en parle quand même. Donc, il faut commencer par quelque chose, voilà, que le socle soit solide, et ensuite continuer. Donc, c'est pour ça que nous, on œuvrait pour qu'il y ait des compétences de base et on fait des parcours, il peut y avoir un niveau 2, on peut demander des prérequis. Donc c'est vrai que là, pour nous, ce référentiel, quand même, je sais qu'il n'y a pas d'histoire de niveau, mais pour nous, il peut y avoir des niveaux dans l'acquisition d'une compétence. Il peut y avoir un niveau, et du coup, si les choses étaient cliquables et qu'on puisse avoir des précisions à certains moments, savoir s'il y a ensuite un parcours qu'il faut suivre pour arriver à telle compétence, à la mettre en œuvre dans son lieu d'exercice propre, c'est vrai que ce serait intéressant aussi.
Merci beaucoup. Il nous reste un petit moment si vous avez envie d'échanger, de dialoguer, de poser des questions. Je crois qu'une main s'est levée devant, une autre là-bas. Merci Éléonore.
Bonjour. Lors des assises de l'an dernier, vous expliquiez que ce référentiel n'avait pas de valeur contraignante. Il me semble qu'il y avait quelqu'un dans le public qui avait réagi en disant que l'élaboration de ce référentiel devait tout de même être accompagnée, être assortie d'une discussion sur la reconnaissance des compétences pour les agents. Donc, avez-vous avancé sur ce point ? Et autre curiosité statistique, est-ce qu'on a une idée justement du poids de la reconversion dans les bibliothèques ? Alors parfois c'est pas aussi tranché, ça peut être des métiers adjacents, mais est-ce que je sais pas si ça figure par exemple dans...
Non, on n'a pas de données en fait sur les parcours initiaux des personnes qui travaillent dans les bibliothèques. Alors l'approche du CNFPT nous offre, qui a une approche par métier, nous permet notamment de savoir au sein des trois métiers qui sont utilisés, directeur de bibliothèque, bibliothécaire ou chargé d'accueil, combien on a d'agents qui occupent différents cadres d'emploi, combien on a de bibliothécaires qui sont sur un métier de bibliothécaire, combien on a d'attachés territoriaux qui font ce métier. Donc on a une distinction par filière qui, à ce titre-là, est intéressante, qui donne un aperçu de la diversité. Mais on n'a pas de données sur les parcours initiaux. Et puis parfois, derrière, on sait aussi que les gens ont des parcours parfois qui sont des parcours sinueux, ou alors que derrière une formation classique se cache un profil atypique. Donc il est très difficile d'évaluer cette diversité.
Alors, juste, il me semble que certains diplômes métiers, pour être certifiés, ont l'obligation justement d'avoir une enquête sur ce que les gens faisaient avant et sur ce que les gens faisaient après. Donc il se peut que sur certains DU ou sur certains diplômes ABF, on ait des éléments en fait sur les parcours. Mais là, il faudrait collecter ces données.
La moitié de la profession a entre 40 et 55 ans, on n'est pas sûr d'avoir un suivi
dont certains ont encore le temps,
jusqu'à 15 ans après les sorties d'études. Sur la question de la reconnaissance des métiers, on n'est pas allé dans une approche par type de statut. On indique bien dans le référentiel que les compétences sont à retraduire en fonction des personnels en place. Donc on laisse ce travail de traduction à chaque acteur qui s'emparera du référentiel. Il n'y a pas d'approche contraignante dans le cadre de ce référentiel à ce niveau-là.
Sur la reconversion, c'est très intuitif, mais on est plusieurs dans les bibliothèques départementales à constater que notre formation dite de base, que moi j'appelle éveil à la gestion d'une bibliothèque, on a de plus en plus de gens qui sont bénévoles dans une logique de reconversion pour accéder à cette formation dispensée par la bibliothèque départementale. Donc on fait partie des métiers attractifs de ce point de vue-là pour des perspectives de reconversion, de changement de métier. Et ça a été évoqué ce matin, il y a aussi toutes les reconversions plus ou moins volontaire et de la part de la bibliothèque et de la part de l'agent concerné, puisqu'on fait partie, mais comme plein d'autres services dans les collectivités locales, il y a aujourd'hui une problématique que vous avez certainement rencontrée importante dans nos collectivités, qui sont les problématiques d'agents en fin de carrière qui souffrent de troubles musculo-squelettiques ou de problématiques pathologiques sur leur emploi et qui doivent changer, et qui atterrissent là où il y a des équipes assez nourries, donc souvent en bibliothèque, parfois aussi en archives, puis dans d'autres services. Et là, les reconversions ne sont pas toujours volontaires, et parfois elles réussissent et parfois moins.
Bonjour, Véronique Palanchet, je représente aujourd'hui l'association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires que le ministère de la Culture a eu la gentillesse d'associer à la réflexion sur le référentiel. Je remercie par ailleurs l'ensemble des acteurs associatifs qui y ont participé. Ça nous a permis, je pense, de resserrer les liens, y compris sur d'autres sujets. Un témoignage sur la question du niveau des compétences décrites dans les référentiels. Il s'avère que la DBU construit deux référentiels, un qui est dorénavant publié sur le site web ADBU, un référentiel autour de la compétence informationnelle dédié plus précisément au dialogue avec les tutelles sur la formation des usagers en bibliothèque universitaire et établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est promis, je ne le dirai pas une troisième fois. On a travaillé sur des compétences générales. On a voulu aller vite, en fait, dans ce sens. On était un peu dans la même démarche que vous, même si le spectre est beaucoup moins ambitieux. Et on va maintenant travailler sur une déclinaison par niveau, parce que les collègues de bibliothèques universitaires qui travaillent sur le sujet nous disent que c'est quand même super compliqué à utiliser si on n'a pas des niveaux qui permettent aussi de mettre en place des dispositifs de formation et également des dispositifs de reconnaissance. Donc Sophie Gonzalez a évoqué en fait le dispositif Bibliothèque FR formateur qui contribue en fait à cette reconnaissance de compétences. Donc moi j'insisterai volontiers sur piste de travail, la déclinaison par niveau, ce qui à mon avis permet aussi de limiter les freins à l'accès en formation des collègues notamment de catégorie C qui peuvent en retrouver au sein des compétences décrites les activités qu'ils mènent au quotidien et donc se sentir légitimes pour venir en formation. Et je pense que, quelles que soient nos origines, c'est pour nous tous un enjeu de former plus d'agents de catégorie C, plus régulièrement, plus souvent. Et le plus difficile, c'est très souvent le premier pas vers la formation. Le deuxième aspect que je trouverais intéressant, c'est d'aller vers un interfaçage du référentiel que nous avons construit, si je peux m'y associer, au titre de la DBU, avec d'autres référentiels de compétences métiers, que ce soit des référentiels de métiers fonction publique territoriale, de métiers connexes, en fait, aux métiers des bibliothèques, de manière à mettre en avant les zones de recouvrement, et aussi avec les autres référentiels métiers de bibliothécaires, de manière à montrer que c'est un métier qui peut s'exercer un peu partout, dans des contextes très différents, mais avec des constantes quasi évidentes quand on est dans la profession, pas forcément quand on est de l'extérieur. Voilà. Et un troisième point, en tant que directrice de CRFCB, on a énormément de demandes d'agents en reconversion aujourd'hui, et cette année, nous, on assure une formation, on prépare la certification au titre d'auxiliaire de bibliothèque. Sur 18 agents, sur 18 agents retenus, en fait, on a 12 agents en reconversion. Ça vous donne une idée, alors très locale, pas du tout représentative et pas du tout statistique, mais qui, à mon avis, est quand même une ligne assez. Enfin, voilà, donne une idée de la tendance.
Merci pour ce témoignage. On a encore le temps pour une. Nicolas, Georges souhaiterait intervenir. Il y a une question derrière aussi.
Bonjour, Eleonora Lebouec. Je voulais d'abord commencer par dire que ma remarque est très facile à faire après tout le travail déjà fait. Donc merci à toutes les parties prenantes de ce travail pour le référentiel et les chiffres clés. Une question qui a été un peu anticipée par une remarque de Marion Druard sur la question du temps de travail derrière les compétences et notamment sur la question de l'accueil qui donne droit à des primes. Ou encore de l'aspect manutention qui du coup a été touché par votre que vous avez touché un petit peu du doigt avec vos interventions et la question des reconversions qui sont difficiles à non pas à bloquer ou à mais en tout cas à anticiper dans quand les personnes arrivent dans une équipe, quand les DRH, ni les élus, ni les administrations ont de vue sur le temps de travail accordé à la manutention dans les équipes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été touché tant pour l'accueil que pour la manutention, par exemple, le temps de travail derrière ces compétences, est-ce que c'est envisagé, alors j'imagine que c'est très compliqué à chiffrer, mais est-ce que c'est envisagé dans le travail de un petit peu avoir des chiffres de sous-catégories derrière ces compétences-là et de temps de travail qui est accordé aux compétences qui sont dans ce référentiel-là. J'espère que je suis claire dans ma question.
Si je comprends bien, on parle de ratio, hein, c'est ça, de ratio sur un temps plein, de temps de travail d'accueil, de manutention, etc. C'est très difficile effectivement à estimer, surtout que ça varie complètement d'une bibliothèque à l'autre, selon l'organisation de l'équipe. Dans une bibliothèque départementale, par exemple, il y a un tiers ou la moitié de l'équipe qui sont des chauffeurs, des manutentionnaires avant tout. C'est plus mixte, c'est plus réparti dans les bibliothèques municipales, donc c'est un peu difficile. Je pense qu'il faudrait le faire bibliothèque par bibliothèque. Cette question des reconversions de personnes qui arrivent dans la bibliothèque après un parcours professionnel tout autre et parce qu'ils ne sont plus aptes à occuper leur poste, je pense qu'il ne faut pas dire, moi j'entends beaucoup les collègues dire il faut les bloquer, je pense qu'il ne faut pas les bloquer parce que c'est aussi une fonction sociale de la collectivité locale de garder l'emploi pour ces personnes qui rencontrent des difficultés, qui ont été usées par le travail à différents titres sur leurs emplois précédents, mais par contre ça nécessite effectivement d'anticiper un dialogue nourri avec la DRH pour faire valoir ce qu'est la bibliothèque, quels sont ses besoins et quelles sont les attentions particulières à porter, notamment sur les troubles musculo-squelettiques, quand on a des gens qui rangent des livres, qui transportent des livres, qui manipulent des livres toute la journée, c'est pas compatible avec des troubles musculo-squelettiques. Donc il faut effectivement, ça ne peut rentrer que dans un dialogue très anticipé du responsable de la bibliothèque avec la DRH, sans attendre une situation de crise où on essaie de vous imposer un agent que vous aurez du mal à employer au vu de ces pathologies. Peut-être je ne sais pas si je réponds, Léonora, mais...
Pour compléter sur ce que tu dis, Marion, dans le cadre de ces référentiels, on part vraiment sur des compétences. Alors, il y a des introductions pour chaque domaine de compétences dans lesquelles on évoque le fait notamment que le métier s'est transformé et que la fonction d'accueil est devenue centrale. En revanche, on ne va pas jusqu'à faire des ratios qui vont aussi beaucoup dépendre de l'aménagement des lieux, de la taille de la bibliothèque. Et là, justement, ce référentiel avait vraiment pour vocation de ne pas se resserrer autour d'un type d'organisation du travail, d'un type de bibliothèque, mais être largement ouvert. Pour la question que tu posais aussi, Eleonora, autour des ports de charge, le fait qu'il y ait des tâches de ce type-là est indiqué actuellement dans le référentiel, peut-être pas assez. En tout cas, on a évoqué aussi, si mes souvenirs sont bons, dans la partie RH, des attentions à toutes les réglementations hygiène, sécurité, santé au travail. Donc on peut s'appuyer, me semble-t-il, sur ces éléments-là pour faire valoir le fait que ça fasse partie des métiers et peut-être que ça fera partie aussi des contributions qui nous seront proposées de renforcer. En revanche, on n'ira pas jusqu'à des quantifications qui ne peuvent se faire que dans des contextes territoriaux.
Merci. Alors, de mon côté, je ne le dis pas de façon rituelle. Moi, je suis vraiment très impressionné par le travail qui a été fait. Et je remercie vraiment ma camarade Raphaël, mais toutes les équipes qui y ont contribué. En un temps qui est quand même relativement limité et avec cette idée, je suis désolé de le dire, mais quand on publie des choses comme ça, on a l'impression que c'est bon, mais ça ouvre des perspectives assez considérables et d'une certaine manière on a quand même, ça nous ouvre un travail assez considérable parce que il y a beaucoup de rapports qui finissent dans le tiroir. Là, il y a une dimension opérationnelle sur laquelle je vais revenir qui me semble tout à fait fondamentale, que vous avez bien montré. Le premier élément que je voudrais dire, c'est qu'on a deux documents qui se parlent, mais qui ne sont pas vus de la même optique. Je reprends tout ce que j'ai appris de Dominique Lahari, que j'ai vu dans le fond, et de toute la réflexion qui nous amène régulièrement, qui nous a amené à faire sur le métier. Bon. Le métier, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Hein. Le métier, c'est quelque chose qui renforce une cohésion, une vision partagée, collective. Et ça peut être aussi quelque chose qui tourne à l'enfermement, d'une certaine manière, et à la difficulté à évoluer, ou à la difficulté, comme le disait Marion Druard, peut-être à imaginer qu'il y a d'autres métiers qui peuvent participer également à une activité collective comme celle d'une bibliothèque. Et donc on a un premier document qui est celui de la photographie mais dynamique, qui parle beaucoup du métier. Qu'est-ce que c'est ce métier? Quelle est la photographie de ce métier? Et puis on a quelque chose qui est très différent là, qui parle des compétences, et qui ouvre précisément, de manière même un peu vertigineuse, à tous les métiers qui peuvent contribuer, ou en tout cas tous les profils qui peuvent contribuer à une activité comme celle-là. C'est une vision importante, intéressante, notamment, vous l'avez dit, vis-à-vis des élus, pour faire un travail de conviction, parce qu'un schéma comme celui-là, à mon avis, même s'il peut faire peur à certains dirigeants politiques, vu l'ambition quand même que ça représente, est plus parlante que de dire « j'ai besoin, enfin on a besoin de tel profil ». Voilà, on a besoin de gens qui viennent d'une variété d'origines, sans doute, et qui puissent traduire ça dans la réalité. Donc ces deux documents, ils se parlent, et il ne faut pas qu'ils arrivent à se détruire l'un l'autre, il faut qu'ils arrivent précisément à s'articuler pour avoir une vision ouverte, me semble-t-il, de nos professions et de leur dynamique. Et les deux doivent le permettre, les deux le permettent. Alors comment ils le permettent? Je pense qu'ils font appel à notre intelligence, non seulement collective, parce qu'on peut faire une vision stratégique, qu'on est en train de la faire entre nous, de très haut. Ils sont quand même très exigeants pour les équipes en place, parce que décliner des outils comme ça, en prendre connaissance, le premier document, quelle est cette profession, ensuite analyser ça et le traduire dans la réalité, ben oui, c'est le travail des dirigeants, certes, mais c'est quand même pas mal de travail, d'une part, et beaucoup d'intelligence. Donc on table sur l'intelligence de nos professions et de nos équipes et de nous-mêmes, de nous-mêmes en tant que dirigeants, tant mieux, mais c'est quand même exigeant. Ce que vous venez de faire, ça tire les gens vers le haut, très bien, c'est exigeant. La question de la manière dont ça va diffuser, je me la pose également. On est, je ne sais pas, 200, 300 personnes ici, je ne sais pas combien sont connectées. On est des milliers à faire ce travail. On a des centaines de dirigeants à convaincre en face de nous. La manière de porter le message de ces documents-là jusqu'au plus profond des territoires et de leurs représentants, c'est un véritable enjeu. Et ça mérite également d'être discuté. Et c'est ce caractère très opérationnel, finalement, de ces documents qui m'intéressent à la fois et qui m'interrogent en termes de mobilisation collective. Et puis peut-être un troisième élément, et c'était une question que je posais à nos collègues de la première table ronde, pour l'aspect très macro qui est le mien, celui de nos collègues du CNFPT, quelle image cela donne-t-il aujourd'hui de notre profession? Est-ce qu'elle est en bonne santé, en mauvaise santé? Je ne sais pas exactement comment le dire, parce qu'il y a des chiffres qui vont dans les deux sens. Et quelle est sa dynamique? Je vois quand même que les collectivités locales recrutent plus de B ou C, moins de A, que notre réponse, d'une certaine manière, peut-être implicite, c'est de dire qu'il faut mieux former les gens parce qu'on a des compétences tout à fait considérables à mettre en œuvre et nous sommes des ambitieux. Est-ce que ces deux mouvements-là ne risquent pas à un moment donné de provoquer quelques difficultés, quelques frustrations avec des gens qui sont recrutés à des niveaux qui baissent d'une certaine manière et à qui on demande de plus en plus de capacités à gérer des équipements qu'on positionne très haut dans la vie sociale? Ça, c'est une des questions que je me pose, mais je n'ai pas la réponse.
on voit en tout cas dans les statistiques que l'on a présentées précédemment que dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur, on a une représentation des cadres et des cadres intermédiaires beaucoup plus importante que dans les collectivités territoriales. Dominique, tu pourras publier, si tu le souhaites, les graphiques actualisés sur ton blog à partir des données qu'on a transmises aujourd'hui, parce qu'on trouve sur ton blog l'historique depuis un certain nombre d'années de ces questions de comparaison justement entre la fonction publique d'État et territoriale, et il semble qu'il y a une évolution qui n'est pas la même entre les deux. Donc ça, c'est un point, me semble-t-il, intéressant au regard de ce qui est évoqué ici.
Je pense que vous pointez là justement le point de vigilance. Si on veut aller plus loin, il faut corréler avec la question, justement, ce qu'on n'a pas fait sur les statuts, mais qui est vraiment, qu'il est absolument nécessaire de traiter. Montrer que le métier a évolué, soit, que les statuts ne le prennent pas en compte, soit, mais voilà, attention à la réflexion. C'est vrai que nous, on fait une veille emploi, diffuser des offres à temps non complet, où on fait absolument tout, y compris la direction de la bibliothèque, le dialogue avec les élus, etc. Tout ça à temps non complet en catégorie C. Ça s'arrête.
Il y a un moment donné, ça
s'arrête
pas le
quand
faire, quoi.
Donc là, dire que pour toutes ces compétences-là, derrière, il faut aussi faire évoluer les statuts et les faire reconnaître. Évidemment que c'était ça le point de vigilance sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, mais vous le pointez pour nous directement, et notre association est très sensible à ça, et on n'est pas la seule.
Alors, on va devoir s'arrêter là. Je suis désolée pour les questions qui.
Non, juste, moi je pense qu'on est dans une profession extrêmement agile. Enfin, quand je vois, pour la partie que je connais, les bibliothèques départementales, la vitesse à laquelle on a mis en place des formations en ligne, par exemple, au moment des confinements successifs, parfois, non pas d'un point de vue économique, parce qu'évidemment il est bien plus confortable d'être conservatrice, mais d'un point de vue excitation du métier et enthousiasme, je regrette parfois d'être conservatrice et d'avoir passé ce concours, quand je vois l'inventivité dans des petites bibliothèques, et notamment des bibliothèques rurales, l'inventivité des services, de la relation à la population qui s'invente, etc. Je trouve que vraiment on assiste à des choses fantastiques, et quel que soit le niveau de la bibliothèque. Après, la grande précarité de salariés des bibliothèques, alors je vais plutôt parler des petites et moyennes bibliothèques que je connais mieux, elle est réelle parce qu'il y a le statut, mais il y a aussi le salaire, bien entendu. Et pour le coup, c'est pas complètement par hasard aussi que ce soit une profession extrêmement féminisée. Ça a à voir avec le salaire et ça a à voir avec la valorisation de la compétence, le fait qu'on soit 80% de femmes dans cette profession, et que souvent on a fait, comme souvent, passer l'intérêt public, du service public et de la notion militante de la lecture publique avant la défense de nos intérêts propres, ce qui n'est pas forcément le cas de certains de nos collègues dans les collectivités territoriales d'autres filières. Voilà.
D'ailleurs, les chiffres clés le montraient. Le premier motif de motivation pour aller en formation, c'est d'améliorer le service proposé au public. Voilà. Alors, je suis désolée, on va devoir s'arrêter là. Cependant, on reprend à 14h ici pour une dernière table ronde sur les formations post-recrutement. Petite précision, à 14h, les intervenants qui contribuent à animer des stands au forum sont invités, eux, à se réunir pour aller préparer les stands. Et à 15h, on vous proposera un forum. Donc, s'il reste des questions sur le référentiel, il y aura notamment un stand qui permettra d'aller poursuivre les échanges sur ce sujet. Et puis, le forum a été pensé pour vous permettre, justement, de dialoguer, de circuler librement entre les stands et d'échanger avec les personnes dont les sujets traités vous intéressent. Merci à tous. Bon appétit et à tout à l'heure.